Bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission du Cercle de lecture de Confluence, après les vacances. Et nous avons choisi pour cette réunion un livre de Philippe Roth qui s'appelle « Le complot contre l'Amérique ». Évidemment, notre choix avait été guidé par le fait que Philippe Roth est mort cette année, il y a quelques mois. Alors, avec moi pour en parler...
Bernard,
Jean, bonjour.
Françoise
et Jeannette, donc. Alors, peut-être qu'il serait intéressant de parler un petit peu de ce titre, « Le complot contre l'Amérique », et peut-être de dire, ce livre est une uchronie, et pour ne pas mourir idiot, peut-être que Jean, tu pourrais nous éclairer
sur ce qu'est une uchronie.
Sur ce qu'est une uchronie. Alors, et par-dessus le marché, faire la différence avec une dystopie.
Bon, mais vraiment, alors je vais essayer d'être précis. J'espère qu'on va me comprendre. Alors, pour donc simplifier les choses, on part d'un fait historique, enfin d'une réalité historique qui a bien existé et... On émet une hypothèse, si les choses avaient été différentes, qu'est-ce qui se serait passé? En l'occurrence, ici, c'est si, au lieu de Roosevelt, ça avait été Lindbergh qui était devenu président de la République, enfin pas président de la République, mais qui est président des États-Unis, qu'est-ce qui se serait passé? Quelles auraient été les conséquences? Voilà. Il se trouve que Lindbergh était quelqu'un qui avait des sympathies à la fin des années 30, enfin début des années 40, qui avait des sympathies très fortes pour l'Allemagne nazie, et donc un président qui avait des affinités, enfin des préférences pour les thèses nazies, à la tête des États-Unis. Quelles sont donc les conséquences? Qu'est-ce qui s'ensuit? Qu'est-ce qui va se passer? C'est le thème donc de ce livre.
Alors la dystopie.
Et la dystopie, c'est lorsque aussi on imagine une situation un peu fictive à partir d'un ensemble réel, mais avec des conséquences catastrophiques.
Et plus d'anticipation.
Par exemple, je crois qu'on cite comme exemple Fahrenheit 451.
Ou 1984,
voilà,
d'Orwell.
Alors, un exemple d'uchronie, enfin, c'est une de nos lectrices qui l'a proposé, c'est par exemple Pascal qui dit « Si le nez de Cléopâtre avait été plus
court,
qu'est-ce qui se serait passé ?»
Ouais. La
face du monde en aurait été chargée. Voilà.
Voilà, alors donc, le thème de ce livre, vous l'avez compris, est mélange à la fois l'histoire... et la fiction, et ça a été une pierre d'achoppement pour quelques-uns des lecteurs de notre cercle de lecture, parce que c'est vrai que quand on commence un livre, on ne regarde pas forcément la fin, or justement la composition de ce livre est particulière. Et il y a à la fois le roman, et puis justement Philippe Roth, dans une très longue postface en quelque sorte, fait vraiment le point sur tous les personnages du livre, pour bien dire qui ils sont, parce que, évidemment, on cite un très très grand nombre de personnages réels. On a parlé de Roosevelt, on a parlé de Lindbergh, mais il y a aussi un journaliste, Walter Mitchell, très célèbre à l'époque, le maire LaGuardia,
New York. Il y a Von Ribbentrop.
Von Ribbentrop.
Voilà. Voilà, donc...
Ford.
Et Ford, oui, Henry Ford, oui, voilà. Est-ce que l'un d'entre vous peut quand même rapidement dire de quoi il va être question dans ce livre et qui écrit ce livre en quelque sorte? Quel est le narrateur?
Le narrateur, c'est un petit garçon d'un foyer juif qui habite Newark.
Et c'est Philippe Roth.
Il se nomme Philippe Roth,
comme l'auteur.
Voilà. La perception qu'a ce petit garçon des événements et l'angoisse qui ne fait que monter pour lui, vu tous les événements qui ont lieu et les répercussions sur le monde juif de Newark qui ont lieu après l'élection du président Lindbergh.
Oui. Et donc le livre se présente finalement comme une sorte de journal qui aurait été tenue de juin 40 à octobre 42. Voilà.
Alors cette date d'octobre 42 est intéressante. Pourquoi est-ce que Philippe Ropt s'arrête là ?
C'est le moment.
Alors, oui, peut-être.
C'est le moment où l'Uchronie devient l'histoire. C'est l'entrée en guerre des États-Unis et c'est la période que l'on connaît davantage. C'est vrai que la période 40-42 qui précède l'entrée en guerre des États-Unis dans la guerre mondiale, dans la Seconde Guerre mondiale, au moins en Europe et singulièrement en France, est moins connue que ce qui s'est passé après Pearl Harbor. Quoi. Voilà. Et donc, il est intéressant, effectivement, que l'Uchronie rejoigne l'histoire. D'ailleurs, ça peut aussi nous déstabiliser encore davantage, parce qu'il y a eu un certain nombre d'événements qui sont des événements imaginés, et puis, d'un seul coup, on se retrouve dans la vraie histoire.
Mais parce qu'à ce moment-là, c'était impossible de maintenir cette fiction. Ça devenait trop compliqué. Enfin, ça devenait vraiment la vraie histoire, l'histoire réelle, vraiment devenait celle qu'il fallait suivre absolument.
Alors, on peut faire un certain nombre de remarques. Alors, on peut qualifier Philippe Ropt de visionnaire, parce que ce livre a été écrit en 2004. Or, il y a manifestement des similitudes entre l'époque, c'est une fiction, mais l'époque des États-Unis des années 40, si Lindbergh était au pouvoir, et la période actuelle depuis l'élection de Donald Trump. Les principales similitudes, c'est le fait que l'Amérique, avec Lindbergh, renoue avec l'isolationnisme. C'est l'Amérique d'abord.
America First.
America First, qui est un slogan déjà de l'époque.
Et une organisation.
Et c'était une organisation, quasiment un parti politique, isolationniste. Le deuxième point, c'est la proximité de Lindbergh avec les dictatures. Alors en l'occurrence, là, c'est avec les dictatures fascistes. Bon, Trump, c'est la proximité avec Erdogan, c'est la proximité avec Poutine. Là encore, il y a un certain nombre de similitudes. Bon, mais il y a quand même des différences. Alors je me suis interrogé sur ces différences. C'est vrai que Lindbergh est proche, tu l'as dit Jean, de l'Allemagne nazie, alors que Trump n'a pas de mots assez durs pour condamner l'Allemagne. Mais en fait, c'est deux faces d'une même réalité. C'est que Lindbergh est intéressé par l'Allemagne parce qu'elle s'est remilitarisée. Et c'est ça qui intéresse Lindbergh, et de longue date. Lindbergh a fait des séjours en Allemagne pour étudier l'aviation militaire allemande. Alors on peut dire Trump, qui n'a pas assez de mots, contre l'Allemagne d'aujourd'hui, mais c'est pour une raison complémentaire, c'est parce qu'il considère que l'Allemagne s'est insuffisamment remilitarisée, qu'elle s'appuie sur le parapluie militaire américain et que finalement elle joue au coucou, qui profite de ce parapluie américain sans investir dans son armée. Voilà, donc c'est plutôt une similitude qu'une différence.
Alors la différence serait que, bon, il n'y a pas, enfin, je ne crois pas qu'il y ait d'antisémitisme actuellement aux États-Unis.
Il y a plutôt une haine de l'étranger en général, plutôt qu'un antisémitisme chez Trump.
Enfin, on pourrait dire peut-être pas plus d'antisémitisme que partout ailleurs, parce que j'ai été étonnée dans d'autres livres de Trump de voir à quel point. De Ropt.
Il n'écrit pas, lui.
J'ai été étonnée de voir à quel point, justement, il fait allusion au fait que des universités américaines peuvent avoir une sorte de numerus clausus pour des juifs, qu'il y a quand même un antisémitisme latent dans certains milieux. Voilà. Bon, peut-être que cette clairvoyance de Ropt, là en l'occurrence sur la politique, on la retrouve quand même dans presque tous ses romans. Il s'interroge aussi dans d'autres romans sur ce qui lui fait peur, c'est-à-dire la venue du politiquement correct, la venue d'un moralisme très conservateur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit un peu ça à l'œuvre aux États-Unis. Mais revenons à nos moutons et aux héros de l'histoire. Et ça serait intéressant peut-être de lire les premières pages parce qu'elles donnent le ton.
Oui, un thème vraiment récurrent dans le livre, c'est le thème de la peur. Et il y a une sorte de pont qui se fait entre le début et la fin. Les premiers mots du livre évoquent cette peur, justement. Hein. C'est la peur qui préside à ses mémoires, une peur perpétuelle. Et cette formule, une peur perpétuelle, c'est celle qui donne son titre au dernier chapitre. Donc, la... cette peur s'insère à l'intérieur d'une famille, qui pensait qu'elle n'aurait absolument aucun problème aux États-Unis, dans sa vie aux États-Unis. Ils se considéraient totalement américains. Leurs racines juives, bon, elles existaient bien sûr, mais elles étaient un peu au second plan.
On ne parlait pas yiddish chez eux.
Voilà. Et la pratique aussi n'était pas, enfin, les pratiques religieuses n'étaient pas très strictes. Et tout d'un coup, on va rappeler à ces familles, à tous ces gens qui vivent dans un quartier bien défini, on va leur rappeler qu'ils sont peut-être différents. Et ce que je voulais dire, enfin ce que j'aurais eu envie de dire aussi, c'est le prestige qu'avait Lindbergh à cette époque-là. Mais peut-être qu'on en reparlera.
On en reparlera.
Parce que pour ce petit garçon et pour beaucoup de gens aux États-Unis, Lindbergh, c'est vraiment le héros parfait. Le héros en plus qui descend du ciel, enfin, et qui est absolument prestigieux.
Et peut-être qu'avant d'aller plus loin, on va faire une pause musicale. Je vous propose d'écouter un air de jazz, Cab Calloway, Mini de Mouchy, qui montre justement peut-être une certaine joie de vivre avant la peur. Avant la peur. Et qui date de cette époque, oui.
A story about Minnie the Moocher. She was a red hot hoochie coocher. She was the roughest, toughest frail, but Minnie had a heart as big as a whale. Hidey, 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 hidey. She loved him, though he was cocky. He took her down to Chinatown, and he showed her how to kick the gong around. Hide, 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 hide.
Après Cab Calloway, revenons un petit peu à la famille du petit Philip Roth, puisqu'il a 7 ans, dit-il dans ce livre, et à la peur qu'il habite.
Voilà, donc dans cette uchronie, sûrement, Philip Roth développe et amplifie des angoisses qu'il a pu ressentir quand il était petit, au moment où, effectivement, Lindbergh tenait des propos antisémites. Le héros, lors de l'investiture de Lindbergh à la présidence, commence à ressentir une certaine angoisse, comme le premier coup de boutoir contre l'immense capital de sécurité personnelle que j'avais tenu pour acquis, moi, l'enfant américain de parents américains. Et cette angoisse va s'exprimer dans un cauchemar où il voit imprimé sur une série de timbres nationaux des parcs, enfin sur une série des parcs nationaux américains, une croix gammée noire.
Sur les timbres.
Sur les timbres.
Et ce petit garçon est un petit philatéliste et a une belle collection de timbres qui aura un rôle important dans le livre.
Et il ressent d'abord personnellement un sentiment d'insécurité lors du voyage de la famille à Washington. Lorsque la chambre que la famille a réservée depuis des mois, à l'avance, leur est retirée sous le prétexte mensonger qu'elle était déjà retenue par une autre famille. Et que le policier appelé par son père pour rétablir leurs droits, lui ordonne brutalement de vider les lieux. Et par la suite, le sentiment d'insécurité va croître dans la famille avec les dissensions que provoquent les mesures prises par l'administration de Lindbergh. D'abord, la création du mouvement Les gens parmi d'autres, des gens parmi d'autres. Bon, il s'agit d'encourager les minorités religieuses et nationales à s'intégrer davantage dans la société américaine. Et c'est dans ce cadre que son frère Sandy part à la découverte de la vie dans une ferme au Kentucky et va se faire le propagandiste de cette action. Encouragé en cela par sa tante, la sœur de sa mère, qui a épousé un rabbin juif, directeur du bureau d'assimilation et acteur de la politique du président Lindbergh.
Un rabbin très charismatique et qui, lui, est pour, enfin, pense que la politique de Lindbergh n'est pas du tout antisémite, alors que beaucoup de juifs freinent des quatre fers et, bien sûr, ont raison.
Oui, je pense que c'est ce qui fait justement la richesse de ce livre, c'est finalement la complexité des personnages. C'est-à-dire que les personnages, il n'y a pas de vision manichéenne. Des personnages pour lesquels on aurait de la sympathie, tout d'un coup, font des choses étranges. Les personnages antipathiques, finalement, on essaie de les comprendre. Notamment, il y a ce personnage de la tante, la sœur de la mère, qui à la fin devient un personnage pathétique parce qu'elle est rejetée, elle est et la mère va avoir une espèce de pitié pour elle. Peut-être qu'on aurait pu préciser la composition de cette famille. Et les ramifications.
Peut-être juste un mot pour illustrer ce que tu viens de dire. Tu as dit, Jeannette, et cette attitude montre qu'ils ont raison, contre le rabbin. En fait, au moment où les faits sont racontés, c'est pas si évident que ça. Finalement, cette politique dont le rabbin est un des acteurs importants est une politique assimilationniste qui paraît une politique plutôt d'ouverture. Enfin, c'est pas une politique qui ségrègue, c'est une politique qui absorbe. Et on peut s'interroger au moment où elle est racontée sur qui a raison, qui a tort. D'où l'aspect non manichéen que tu soulignes, Jean.
Oui,
mais en même temps, on le constate, mais parce qu'on connaît la fin de l'histoire. Mais au moment où c'est raconté, c'est pas si évident
que
ça.
Vrai, c'est vrai.
En même temps, du point de vue des autorités, c'est diabolique, parce que c'était comme ça aussi dans l'Allemagne nazie.
Oui.
On cherche un juif, enfin on cherche quelqu'un du camp auquel on s'attaque, qui devient celui qui va après essayer de faire l'intermédiaire.
Ben oui.
Et ça c'est vraiment
même
diabolique.
Même le prosélyte.
Oui. Et alors je reviens à mon histoire familiale.
Oui.
C'est le drame dans la famille éclate le jour où Sandy, donc le frère aîné de Philippe, est invité par sa tante à la réception que donne le président à l'honneur de von Ribbentrop.
Von Ribbentrop,
le ministre des Affaires étrangères d'Hitler. Mmh. Le père du narrateur chasse sa belle-sœur. Sandy traite son père de dictateur pire qu'Hitler et sa mère le gifle. Pour la première fois. Deuxième événement qui va accroître les tensions dans la famille, c'est la loi de peuplement de 1942, qui impose à son père une mutation dans le Kentucky. Et cela exacerbe les tensions dans la famille, puisque le père est prêt, par impuissance, à accepter cette mutation forcée, et sa mère qui prêche l'exil au Canada. Il en conclut... Enfin, le narrateur, qui a donc entre 7 et 9 ans, en conclut « Il ne restait plus personne pour nous protéger à part moi. » Pour lui, c'est le chaos total. Et son sentiment d'insécurité s'exprime lorsque les collègues de son père s'en vont les uns après les autres. « Notre vulnérabilité me sautait aux yeux et je sentais que la destruction de notre monde était engagée. » Et puis, ce sentiment d'insécurité atteindra son paroxysme lorsque son père, tu l'as dit, devient violent, se bagarre avec son neveu Alwyn, qui lui a craché au visage, alors que le père reprochait à son neveu de ne pas se soucier du sort des Juifs de son pays.
Alors peut-être qu'il faudrait aussi préciser qui est ce neveu.
C'est un
personnage important. Là.
Voilà, oui, oui. Et, d'abord, il s'est rebellé contre la politique juive de anti-juive de Lindbergh, et il s'est engagé dans les forces canadiennes pour lutter dans la guerre européenne contre le nazisme.
Parce que voilà. Je pense aussi que si Lindbergh a un tel succès. Et un des discours de Lindbergh est quand même cité est cité en toutes lettres par Philip Roth, c'est parce que il est absolument contre l'engagement de l'Amérique aux côtés des Européens alliés contre Hitler. Il est absolument.
Son slogan, c'était c'est moi ou la guerre.
Voilà.
Le slogan
de
Lindbergh.
Ça.
C'est là-dessus qu'il a été.
Et on comprend que tous ces gens, tous ces Américains qui ont eu dans leur famille des gens qui en 14 ont laissé leur peau sur les terres des Flandres, ou près de Verdun. Ne soit pas très chaud pour revenir à nouveau en Europe, verser leur sang. Donc je pense que ça explique le voilà.
Oui,
mais alors, dans le livre, on sent monter quand même cet antisémitisme. Il y a une sorte de nuit de cristal, parce que il va y avoir des émeutes anti-juives. Et malgré le fait qu'un présentateur américain, ce fameux Walter Mitchell, qui est un personnage réel, et qui essaye de mettre en garde les gens. Mais j'ai envie de vous proposer.
Et on peut dire, et ce personnage va être assassiné.
Oui. Et ce personnage sera assassiné. Pas dans la réalité.
Voilà.
Dans l'histoire, mais pas dans la réalité.
Ouais. Mais alors que Bobby Kennedy sera assassiné, lui, dans la réalité. D'ailleurs, c'est indiqué.
J'ai envie de vous proposer une autre pause musicale qui montre un peu que le pire peut quelquefois être sûr. C'est une chanson d'André Chédid qui s'appelle Anne Masserane.
Thank you.
Alors, nous nous retrouvons pour parler du livre de Philippe Roth, Le complot contre l'Amérique, qui a été analysé par le Cercle de lecture de Confluence ce mois-ci. Et on comprend que ce petit garçon, face à cette nazi-nostalgie, ou pas encore nostalgie, mais nazisme en opération, ait pu se sentir insécurisé. Insécurisé aussi parce qu'il découvre quand même des failles dans la famille. Entre autres, son père, qui était totalement contre Lindbergh, va s'opposer à ce que ce neveu dont nous parlions tout à l'heure, qui veut s'engager contre Hitler, s'engage. Et donc, c'est vraiment, pour le petit garçon, c'est quand même... Où est-on, enfin, si les piliers s'effondrent? Oui. Et justement, d'autant ça te frappait, Jean.
D'autant plus que le neveu, enfin, donc le cousin, va revenir très terriblement blessé et amputé d'une partie d'une jambe. Et ce blessé va cohabiter, donc il va revenir et cohabiter avec notamment le petit garçon.
Partager
la même chambre, oui. Voilà. Et donc il y a cette proximité, enfin, qui le perturbe, mais en même temps qui lui donne envie de l'aider, d'aider ce pauvre soldat là qui est revenu blessé.
Oui, il grandit cet enfant finalement.
Il voilà. Fait comprendre beaucoup de choses.
À travers les épreuves qu'il subit, il grandit.
Oui, et ça, il me semble que c'est ce qui fait la richesse du livre aussi. Cette espèce de tendresse pour les humains tels qu'ils sont. Et il y a une phrase qui est justement typique à ce point de vue-là, de ce point de vue. C'est... ce père qui paraît tellement sûr de lui, qui paraît tellement fort, etc. À un moment, le petit garçon le voit pleurer. Et il dit, c'était la première fois que je voyais mon père pleurer. C'est un tournant dans une enfance, le jour où les larmes de quelqu'un d'autre nous paraissent plus insupportables que les nôtres. Et il me semble que des phrases comme ça donnent toute la dimension intéressante de l'écriture de Philippe Roth.
Et dans ce poids humain, enfin dans cette empathie qu'il y a avec les personnages, il y a le personnage de la mère aussi qui est très intéressant.
Oui, on peut dire que c'est la figure forte de ce récit. Elle a été élevée dans un quartier irlandais où elle a subi les railleries et l'exclusion. Et... depuis qu'elle habite le quartier juif de Wickavik, donc à Newark, sa tâche était de maintenir notre monde en place avec tout le calme et le bon sens dont elle était capable. C'est ce qui donnait de la plénitude à sa vie. Voilà. Pour elle, l'essentiel, c'est de maintenir l'harmonie familiale. Et à maintes reprises dans le roman, elle est la figure qui veut justement maintenir cette harmonie, qui protège, qui rassure des agressions du monde extérieur et des malheurs familiaux. Par exemple, à Washington, quand son père a démêlé avec le policier, elle nous entourait les épaules de ses bras et nous avait entraînés à distance respectueuse de la réception. Ou encore, lors du retour d'Alvin, à qui il manque une jambe, elle demande au narrateur de l'accompagner en autobus. Je compris par la suite qu'elle avait voulu m'épargner le spectacle prolongé de ce malheur, dit-il. Et après la bagarre de son mari avec son neveu, ma mère était assise bien droite entre Sandy et moi. Elle nous serrait contre elle par une pression du bras et elle faisait de son mieux pour que sa mince pellicule de courage ne trahisse pas sa terreur devant ses enfants. C'est une mère pleine de tendresse, de sollicitude, de protection. Et elle veille, par exemple, aussi à rassurer leur ancien petit voisin, Seldon, qui téléphone du Kentucky pour s'alarmer du retard de sa mère. Elle va avoir une conversation avec lui pleine de sang-froid et de tendresse, justement, mais une fois l'appel terminé, elle s'effondre. Elle enfouit sa tête dans ses mains et fut secouée par ses sanglots, par les sanglots. Le devoir qu'elle se faisait d'épargner ses enfants, la force avec laquelle elle cachait farouchement ses faiblesses pour garder la situation en main, était en train de céder. Et Philippe Roth, petit garçon, a alors la révélation que sa mère est un être vulnérable comme lui, et il dit une très belle phrase à ce sujet. Cette révélation fut un choc, et j'étais trop jeune pour comprendre que c'était là le lien le plus fort de tous.
Alors c'était d'autant plus intéressant de voir cette mère qui est, c'est vrai, qui est extrêmement admirable dans, dans ce texte, forte et chaleureuse et douce à la fois, humaine à la fois, que dans, il n'épargne pas les mères, Philippe Roth, dans ses autres romans. Il y a vraiment des romans dans lesquels il fait un portrait de ce qu'on appelle d'une manière générale la mère juive, comme quelque chose de une virago, presque castatrice, enfin voilà. Donc c'est à souligner qu'il n'est pas toujours antiféministe, comme on le lui a reproché.
Et là justement, la mère n'est pas du tout étouffante.
Non.
Du tout.
Elle est très ouverte à tout ce qui est finalement... tout ce qui peut arriver.
Et d'ailleurs, quand on préparait l'émission, on avait presque envie de vous passer une chanson chantée par Charles Aznavour qui s'appelle « Yiddish Mama ». Et vraiment, cette mère-là correspond tout à fait à ce qui est dit d'elle. Vous n'aurez qu'à l'écouter par vos propres moyens. Mais ce qui est intéressant dans le livre aussi, c'est quand même le style dans lequel il est écrit.
Oui. Il me semble, pour donner justement envie de lire Philippe Roth, je voudrais insister sur la virtuosité de cette écriture et la réussite pour le lecteur. C'est-à-dire qu'il y a une grande variété dans la manière de mener le récit. Bon, il y a le récit fait par le jeune garçon, mais il y a aussi des dialogues pris sur le vif, qui sont presque des dialogues qui pourraient être joués. Il y a l'insertion aussi de documents, le discours de Lindbergh, des extraits de journaux. Il y a donc une espèce de diversité qui fait que la lecture, enfin, de mon point de vue, n'est jamais lassante.
Et ça, on le retrouve dans beaucoup de textes de Philippe Roth, ces espèces d'inserts d'un discours, d'une interview qu'il a pu donner, par exemple, enfin, ou de l'interview qu'il a pu faire d'un écrivain. Je pense à, dans Opération Shylock, il donne des extraits d'une interview qu'il a faite d'un écrivain israélien. Donc, il y a quand même des constantes dans l'œuvre de Philippe Roth, et son imagination aussi est vraiment intéressante à souligner, et une imagination qui, tu trouves, Bernard, quelquefois lui joue des tours.
Joue des tours, du moins va franchement vers le délire. La toute dernière partie, avant qu'on rejoigne la vraie histoire, c'est-à-dire avant novembre 42, là l'histoire devient une fiction totale. C'est d'ailleurs une des interprétations du titre, Complot contre l'Amérique. Et là, on peut comprendre que les nazis seraient les auteurs de l'enlèvement du fils de Lindbergh, qu'ils auraient fait chanter Lindbergh pour l'amener à leur cause. Enfin bon, c'est une réécriture de l'histoire là, qui pousse peut-être le bouchon un peu loin. L'Uchronie devient presque délirante, quoi.
Oui, mais
c'est peut-être pas le meilleur de l'histoire, cette toute dernière partie. Enfin, c'est pas tout à fait la dernière partie. Tu l'as rappelé tout à l'heure.
Mais
Jeannette, il remet les choses à l'endroit dans la postface en refaisant l'histoire, et même l'histoire qui va bien au-delà de 42, des personnages réels qui sont nombreux dans ce roman.
Le pasteur, le fameux pasteur qui est pro Lindbergh, le pasteur Begensdorf, le rabbin Begensdorf, est tellement réel et tellement bien croqué que vraiment je l'ai cherché dans les personnages historiques, et non, celui-là il a été vraiment inventé. Oui.
Non, ce que je voulais simplement dire, c'est que ce livre a été écrit en 2001.
En 2004.
Et c'est en 2001.
Il a paru en 2004.
Et c'est en 2001 quand même que naissent les théories du complot. Et je trouve que finalement, le titre, là, Le complot contre l'Amérique, c'est les diverses théories du complot. On pourrait dire les complots contre l'Amérique, puisque tout le monde, les Juifs, les Hitlériens, les Russes, sont accusés par les uns et par les autres de comploter contre l'Amérique.
Oui, c'est vrai qu'il est sensible, on le voit dans d'autres romans, Roth, au conspirationnisme, enfin, cette théorie du complot. Alors, peut-être qu'on peut revenir sur les thèmes quand même de prédilection chez Roth. la judéité, c'est vraiment quand même une dominante importante. Ces héros sont juifs d'une manière générale. Bon, se heurtent, sont plus ou moins assimilés. Enfin bon, la théorie du complot, le conspirationnisme, on retrouve ça beaucoup. Tout l'aspect également, lutte contre une morale très, très étriquée.
Oui. Et aussi judéité et citoyenneté. Tu l'évoquais, Jean, tout à fait au début. Et là, il y a presque un essai sur la judéité inséré dans l'histoire. Là, c'est plus Philippe, le jeune garçon, qui parle, c'est sans doute le Philippe Roth, auteur. Qu'est-ce qui fait finalement l'identité juive lorsqu'on est devenu citoyen, lorsqu'on est laïque, lorsque, sans renier son histoire, on ne l'affiche pas? Qu'est-ce qui reste finalement? Et ça, c'est une interrogation que l'on peut tous avoir lorsqu'on connaît, lorsqu'on a des amis juifs, lorsqu'on est très intime avec des amis juifs qui ne manifestent pas du tout, d'une quelconque façon, ni religieuse, ni historique, ni identitaire, leur judéité, et qui pourtant se reconnaissent comme tels, quoi, quand on en parle.
Mais en même temps, ce qui est, il me semble, tout à fait terrible, mais très vrai historiquement, c'est que ces gens qui se sentent totalement intégrés, totalement américains,
en tant que citoyens. Hein,
mes parents étaient des gens sociables, hospitaliers, qui trouvaient leurs amis, etc. Bon, nous étions une famille heureuse. Depuis trois générations, ils se sentaient vraiment américains. Et tout d'un coup, on leur renvoie qu'ils sont différents. Je crois que ça s'est passé de la même façon pour en Europe.
Tout à fait.
Où on a renvoyé à des gens en Autriche, en Allemagne,
qui étaient complètement
qui avaient fait la guerre, que finalement ils étaient différents. Oui. Oui, ils ne comprenaient pas pourquoi on les considérait comme différents.
Absolument.
Donc là, il y a une grande vérité, finalement, historique aussi.
Alors, on arrive un peu au terme de notre émission. Françoise, tu as envie d'ajouter quelque chose?
J'ai trouvé aussi qu'il y avait beaucoup d'humour dans le...
C'est vrai.
Oui. Et bon, alors, l'humour et l'érotisme, on va lier les deux. Il est question du frère de Philippe, Sandy, le frère aîné. Voilà, c'est lui. Le juif de Lindbergh, planteur de tabac, découvre les saints et le voilà aussitôt un adolescent parmi d'autres. Pour bien sûr paraphraser et se moquer du titre, les gens parmi d'autres. Finalement, c'est un adolescent parmi d'autres. Je trouve que c'est plein d'humour, cette formule.
Oui, alors c'est vraiment une caractéristique aussi de Philippe Roth. Et dans plusieurs passages du livre, on le voit. Ce garçon, finalement aussi, il est dans des situations tout à fait cocasses. Par exemple, quand avec son copain, il se décide qu'ils vont suivre un inconnu dans la rue. Et là, il y a toute une sorte de pérégrination.
Pas n'importe quel inconnu, un goy. On suit un goy, parce que malgré tout, les goys et les quartiers habités par les goys, donc c'est-à-dire les non-juifs, paraissent très exotiques.
Voilà.
Et j'ai beaucoup aimé aussi le passage où la maman de Seldon, son copain, essaye de le faire sortir de la salle de bain, alors qu'il croit qu'il est coincé dedans.
Ça, c'est très drôle aussi. C'est vraiment comme un sketch comique.
Oui. Une scène très réelle.
Nous allons vous quitter là pour le moment, parce que j'aurai quelques annonces à vous faire après. Mais comme ça se termine bien... On a envie de vous faire écouter une chanson extraite du Magicien d'Oz, chantée par Judy Garland, Over the Rainbow, qui est de cette époque également.
Once in a lullaby, somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Birds fly over the rainbow. Why then, oh, why can't I?
Voilà, nous venons de vous parler du livre de Philip Roth que nous ne saurions trop vous conseiller. Vraiment, c'est quand même un très très beau livre, Le complot contre l'Amérique. Alors, quelques petites annonces qui concernent Confluence. Il va y avoir dans les jours qui viennent, le 22 septembre, au marché, un passage des éditions Magnier. Des éditions Thierry Magnier. Ça se passera juste devant l'ascenseur. Il y aura un stand avec des livres et puis il y aura des lectures, enfin toute une animation à propos des éditions Thierry Magnier qui accomplissent une sorte de tour de France et qui sont ce jour-là à Montauban.
Il y aura un apéritif devant l'ascenseur, le bateau livre.
L'ascenseur qui monte du Jardin des Plantes, hein, voilà. Ensuite,
il y aura une animation devant la librairie Le Bateau Livre.
Et il y aura une autre animation, c'est vrai, devant la librairie Le Bateau Livre. Alors ensuite, à la Petite Comédie, le local de Confluence, il y aura le 10 octobre à 18h30 une intervention dans le cadre de la Ferme des Lettres d'écrivains français, allemands. Enfin, voilà, nous ne saurions trop vous conseiller de venir. Un café philo. Le 18 octobre, à 19h, à La Femme Renard, animée par Robert Dartois, que vous connaissez, et dont le thème est « Le passé ». Ça nous ramène un peu au thème de Lettres d'automne. Tu en parles, Bernard, un peu ?
Alors, les prochaines Lettres d'automne seront du lundi 19 novembre au dimanche 2 décembre. L'invité principal étant Christian Garcin. Et le thème du festival, « Les passerelles du temps ».
Voilà, et alors, dans ce festival, vous aurez l'occasion également de voir l'auteur du prochain livre que nous avons choisi.
Et qui s'intitule « Il était une ville » de Thomas B. Reverdy et qui est paru aux éditions J'ai lu. Le prochain cercle de lecture se tiendra le 8 octobre à la Petite Comédie.
Le matin.
Lundi 8 octobre à 10h. Et
bon, tu dis deux mots de.
Il évoque la crise immobilière à Détroit après l'affaire des subprimes. C'est une ville sinistrée où des enfants sont livrés à eux-mêmes.
En même temps, c'est un roman qui se lit très agréablement.
Très agréablement.
Très facilement. Mmh. Et bien voilà, il me reste à vous dire au revoir. Et au mois prochain.
Et bonne lecture.
Bonne lecture.